Nietzsche contre Wagner, nous autres antipodes. On se souvient peut-être, du moins parmi mes amis, que j'ai commencé par me jeter sur le monde moderne avec quelques erreurs et quelques exagérations, et, en tous les cas, rempli d'espérance. Je considérais, qui sait à la suite de quelles expériences personnelles, le pessimisme philosophique du XIXe siècle comme symptôme d'une force supérieure de la pensée, d'une plénitude de vie plus victorieuse que ne l'avait exprimé la philosophie de Hume, de Kant et de Hegel. Je pris la connaissance tragique comme le plus beau luxe de notre civilisation, comme sa manière de prodiguer la plus précieuse, la plus noble, la plus dangereuse, mais pourtant, en raison de son opulence, comme un luxe qui lui était permis. De même, j'interprétais la musique de Wagner comme l'expression d'une puissance dionysienne de l'âme. En elle, je croyais surprendre le grondement souterrain d'une force primordiale comprimée depuis des siècles et qui enfin se fait jour, indifférente d'ailleurs, en face de l'idée que tout ce qui s'appelle aujourd'hui culture pourrait être ébranlé. On voit ce que j'ai mal interprété, on voit également de quoi j'ai enrichi Wagner et Schopenhauer, de moi-même. Tout art, toute philosophie, doivent être considérés comme remède et encouragement à la vie en croissance ou en décadence. Ils supposent toujours des souffrances et des souffrants. Mais il y a deux sortes de souffrants. D'abord ceux qui souffrent de la surabondance de vie, qui veulent un art dionysien, et aussi une vision tragique de la vie intérieure et extérieure. Et ensuite, ceux qui souffrent d'un appauvrissement de la vie et qui demandent à l'art et à la philosophie le calme, le silence, une mer lisse, ou bien encore l'ivresse, les convulsions, l'engourdissement. Se venger sur la vie elle-même, c'est là pour de tels appauvris l'espèce d'ivresse la plus voluptueuse. Au double besoin de ceux-ci, Wagner répond aussi bien que Schopenhauer. Il nie la vie, il la calomnie, et par cela même, ils sont mes antipodes. L'être chez qui l'abondance de vie est la plus grande, Dionysos, l'homme dionysien, ne se plaît pas seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation, la méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte, tout comme elles le sont dans la nature, par suite d'une surabondance qui est capable de faire de chaque désert un pays fertile. C'est au contraire l'homme le plus souffrant, le plus pauvre en force vitale, qui aurait le plus grand besoin de douceur, d'aménité, de bonté, de ce qu'on appelle aujourd'hui humanité, en pensée aussi bien qu'en action, et si possible, d'un Dieu qui serait tout particulièrement un Dieu de malade, un sauveur, et aussi besoin de logique, d'intelligibilité abstraite de l'existence, accessible même pour des idiots. Les libres penseurs types, tout comme les idéalistes et les belles âmes, sont tous des décadents. Bref, d'une certaine intimité étroite et chaude, qui dissipe la crainte, et d'un emprisonnement dans des horizons optimistes qui permet l'abêtissement. Ainsi, j'ai appris peu à peu à comprendre Épicure, l'opposé d'un grec dionysien, et aussi le chrétien qui, de fait, n'est qu'une façon d'épicurien et qui, avec son principe « la foi sauve », ne fait que suivre le principe de l'hédonisme, aussi loin que possible, jusque par-delà toute probité intellectuelle. Si j'ai quelque avance sur tous les psychologues, c'est que je possède un peu plus d'acuité dans ce genre de conclusion si difficile et si captieux, où l'on commet le plus d'erreurs, la conclusion de l'œuvre au créateur, du fait à l'auteur, de l'idéal à celui pour qui il est une nécessité, de toute manière de penser et d'apprécier aux besoins qui la commandent. À l'égard des artistes de toute espèce, je me sers maintenant de cette distinction capitale. Est-ce la haine contre la vie, ou bien l'abondance de vie qui est devenue créatrice? En Goethe, par exemple, l'abondance devint créatrice. En Flaubert, la haine. Flaubert, réédition de Pascal, mais sous les traits d'un artiste, ayant comme base ce jugement instinctif. Flaubert est toujours haïssable, l'homme n'est rien, l'œuvre est tout. Il se torturait lorsqu'il écrivait, absolument comme Pascal se torturait lorsqu'il pensait. Ils ressentaient tous deux d'une façon altruiste. Désintéressement. Voilà le principe de décadence, la volonté de l'anéantissement dans l'art aussi bien que dans la morale.